petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Sans trop nous rendre compte que les générations précédentes ont eu leur lot historique de tragédies, nous nous plaignons souvent et sommes dans la crainte de catastrophes naturelles et de désastres politiques, économiques et même militaires. Les chrétiens se disent « Mais que fait donc Dieu ? Que fait donc Dieu ?» Et les incroyants se confortent dans l'idée triste de l'inexistence de Dieu. Alors, si Dieu voulait tant sauver le monde, il n'avait qu'à donner aux hommes la force divine pour vaincre le mal, pensent beaucoup. Au lieu de cela, voilà que l'Évangile nous raconte que notre Dieu s'est fait homme. La belle affaire, disent les ignorants. Le Christ, né dans la faiblesse, la vulnérabilité, à un point tel que ce Dieu va se laisser tuer par ses propres créatures. À la différence du dieu mythologique Dionysos, qui joue à se faire déchiqueter par les bacchantes, mais pour rire, selon la pièce d'Euripide en 405 avant Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, souffre pour de bon selon l'Évangile. Ce Dieu ne serait-il pas, lui aussi, un faux Dieu ? Vive Jupiter, vive Allah, qui au moins sont immortels. La condition humaine est celle de la vulnérabilité et des limites intellectuelles et physiques de l'homme. Certes, la vulnérabilité peut faire souffrir, et elle fait peur. Mais que serait la vie sans la vulnérabilité ? Sans vulnérabilité, le désir de vivre n'a pas lieu d'être, puisque on serait immortel. Or, le désir de vivre, se battre pour la vie, donne sens à notre quotidien et à notre avenir. Au sens fort du mot « valoir », hein, l'idée de valeur. Au sens fort du mot « valeur », du verbe « valoir », la vulnérabilité est le faire valoir de la vie. La vulnérabilité donne valeur à notre vie. Notre désir de vivre s'exprime, entre autres, par la volonté de procréer, de se perpétuer dans une descendance, comme l'expliquait déjà Platon dans Le Banquet. L'immortel ne devrait pas enfanter, sinon la démographie deviendrait infinie et invivable. Le Christ agit pour la vie et lutte contre les vulnérabilités par son bien-vivre que les pharisiens lui reprochent, par ses guérisons et surtout par sa résurrection. Nulle trace dans l'Évangile d'autoflagellation ou mortification volontaire du Christ. Mais la vie sur Terre n'est pas du repos. Elle implique l'inachevé, la faim, la soif, le froid, le désir, le manque, la souffrance. Ce n'est pas du tout le nirvana, le néant, auquel l'homme aspirerait selon Freud. La vie est mouvement, changement, risque quotidien. La vulnérabilité est nécessaire pour que le vivant soit vivant. Hegel, qui est né en 1770 et mort en 1831, le grand philosophe allemand, l'avait bien compris en écrivant, je cite, « Quelque chose est vivant seulement dans la mesure où il contient en soi la contradiction, c'est-à-dire la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est donc pas qu'une ombre, un défaut, une tache dans l'anthropologie. Les transhumanistes, à la mode chez certains bobos, sont scientifiquement en quête d'immortalité. Savent-ils que l'absence d'adversité serait le néant? Leur échec est total. D'une part, parce que, au lieu de bonheur, ils ne vivent que dans l'angoisse de la mort qui les obsède. Et d'autre part, parce que la vulnérabilité en ce monde est définitive, du fait que l'univers est infini et que de cette infinité surgissent pour toujours des risques encore inconnus. Le mal est nécessaire parce que il est le corollaire de la vie vivante. Voilà une idée juste, mais dont nous n'arrivons pas à nous convaincre. Tant il est vain de se persuader que le mal puisse être un bien. D'ailleurs, pour l'Évangile, le mal est vraiment un mal. Et notre vulnérabilité ne sera écartée qu'à la fin des temps. Alors pourquoi pas tout de suite? Pourquoi attendre la fin des temps? Dieu a permis le mal, y compris le démon, pour que l'humanité soit associée à l'acte créateur, à l'achèvement de la création. Que serait l'homme sans la responsabilité de se construire lui-même? S'il était d'emblée un être parfait, créé, j'allais dire tout cuit, sans aucun effort de sa part, serait-il vraiment l'homme que nous souhaitons? Dieu a voulu l'homme co-créateur, pas comme dans un rêve, mais dans la réalité de faire quelque chose pour vivre et survivre. Faire, et se faisant se faire. C'est-à-dire, faire quelque chose, et en faisant quelque chose, se faire nous-mêmes, se développer. La formule « faire et se faisant se faire » est certes d'un athée, Jean-Paul Sartre, mais elle est très explicite. L'homme se construit en construisant le monde. Jean-Paul II écrit au paragraphe 25 de son encyclique « Laborem exercens » de 1981, il écrit, je cite, « L'homme créé à l'image de Dieu participe par son travail, à l'œuvre du Créateur et continue, en un certain sens, à la mesure de ses possibilités, à la développer, donc la création, à la compléter en progressant toujours davantage dans la découverte des ressources et des valeurs incluses dans l'ensemble du monde créé. Le travail auquel Dieu convie l'homme dès le deuxième récit de la Genèse, donc avant le péché originel, n'est pas une punition due au péché originel, au contraire. Le travail est une glorification. D'ailleurs, le péché originel a lieu dans le jardin d'Éden, qui, selon la Bible, n'est pas toute la création. Et c'est toute la création, et pas seulement l'humanité, qui sera sauvée, selon par exemple saint Paul, dans la lettre aux Romains chapitre 8, versets 19 et suivants. L'humanité a à se battre contre les faiblesses et vulnérabilités par la science, la technique, la médecine et la politique. Mais la mission créatrice et salvatrice va dégénérer et déroger à son but par passion prédatrice. Par le progrès, les hommes vont prendre plus que leur part et rejeter plus que leur part dans les équilibres des écosystèmes. En 2015, Laudato Si de François rejoint spectaculairement les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, Donald Trump est la caricature de ces déviances prédatrices géoécologiques en jouant les invulnérables et le mythe de l'homme fort, battant et équilibré, posture qui lui donne prétendument tous les droits. Quel modèle d'humanité, celui populiste de Trump ou bien la personne humble et anonyme qui a beaucoup souffert dans sa vie et de ce fait témoigne généralement d'une profonde épaisseur humaine. Ne nous y trompons pas, la vulnérabilité est universelle, personne n'en est exempt. Il y a des faibles avérés qui ont besoin de secours aujourd'hui et des faibles en sursis qui finiront aussi au cimetière. Le Christ Sauveur a pris en charge cette condition humaine douloureuse, mais il ne la sauve pas en effaçant dès à présent toutes les faiblesses. Le Christ fait bien mieux que cela. Par la vulnérabilité, il rend possible le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme par le bonheur de l'amour. Des êtres immortels ne pourraient pas aimer, car ils ne pourraient pas se risquer, ils ne pourraient pas se sacrifier, ils ne pourraient pas se donner. Ils seraient très malheureux. Le Christ Dieu est éternel, mais le Christ fait pleinement homme et mortel, et il manifeste son amour par sa vulnérabilité offerte sur la croix. Je cite, « Il n'est pas de plus grand amour que de mourir pour ce qu'on aime », dit Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 10 et 11, sur le modèle du Sauveur, la mort, échec de la vie, peut être transformée en mort victoire de l'amour.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.